Bonjour et bienvenue à Afrique Caraïbe en ce jeudi 14 mars. Oui, c'est le 14 aujourd'hui. Mon invité est déjà avec moi en studio pour venir nous parler de son parcours littéraire et de son parcours radiophonique, Stanley Payan. Voilà, Stanley qui a écrit 25 livres en 35 années de littérature, presque un demi-siècle. Je ne sais pas s'il dort avec les livres dans son lit.
Ils sont à côté du lit.
Ils sont à côté du lit. Voilà. Voilà. Presque un demi-siècle de littérature. Voilà. Alors, il n'a pas commencé avec la littérature. Il était un passionné de théâtre et d'improvisation. Je suis allé chercher loin.
Ah oui, tu es allé chercher dans ma jeunesse, dans mon adolescence à Jonquière.
Et il a participé à la fondation de la troupe d'humoristes. Le groupe Sanguin, il va nous parler de ça un peu avant qu'on entame, là, avant de renoncer à la scène pour se consacrer à ses études universitaires en littérature. Quelle est cette histoire d'humoriste, d'improvisation, là,
alors, Stanley? Bonjour, effectivement. Ah, oui. C'était la grande époque, dans les années 80, de l'improvisation théâtrale qu'avait lancé Robert Gravel. On voyait ça à la télévision, puis il y en avait dans tous les collèges du Québec, y compris le cégep de Jonquière où j'étudiais.
Oui.
Donc, j'ai fait de l'improvisation et à un moment donné, le professeur de théâtre, Dominique Lévesque, qu'on a connu évidemment à la télévision comme comédien, comme créateur de quiz, de talk show, Dominique Lévesque, qui enseignait à l'époque au théâtre, c'est-à-dire qui enseignait le théâtre à Jonquière, nous avait promis à quelques-uns d'entre nous des crédits si on se joignait à sa troupe d'humoristes qu'il voulait fonder. Alors, je suis allé là de manière très intéressée. J'ai fait un peu de scène dans le groupe Sanguin, donc comme humoriste, avec Danny Turcotte, avec les autres qui étaient dans le groupe Sanguin à l'époque. C'était une grosse troupe à l'époque, c'était une vingtaine de personnes, même si au moment où le groupe s'est fait connaître par le reste de la province, il n'y en avait plus que 5 membres sur scène et quelques autres qui écrivaient les textes humoristiques. Donc, je l'ai fait pendant quelques mois et moi, de toute façon, je m'en allais. Je partais pour l'Université Laval à l'automne 84. Donc, j'ai quitté le groupe Sanguin sans aucun regret. Et par la suite, c'est devenu un gros succès. Ils ont fait des spéciaux télévisés. Ils étaient sur toutes les scènes du Québec pendant quelques temps.
Ils ont dit, Stanley nous a laissés. Nous, on continue. Ouais, on tient le flambeau, on tient le drapeau. Alors, auteur de 25 livres.
30 même.
Une trentaine déjà.
Oui. Ben, à 14 ans, j'ai décidé que c'était la littérature qui m'intéressait le plus.
Dans les années 80, au milieu avant.
À 14 ans, donc, ouais. C'est 1980, très précisément, un choc terrible. C'est la lecture de L'étranger d'Albert Camus. Alors, quand j'ai refermé ce livre, j'avais décidé que c'était ça que je ferais de ma vie.
C'est ce que j'ai pu découvrir dans votre livre, le tout premier, La plage des songes.
Ouais.
L'étranger de Camus, ça a été le déclic. Là.
Ça a été le déclic, c'est là que j'ai compris que... D'abord, c'est là que j'ai compris qu'est-ce que c'était que la littérature. Et c'est là que j'ai compris que c'est ce que je voulais faire pour le reste de ma vie. Et donc, je me suis mis à écrire d'abord des nouvelles par la suite.
À ce jeune âge?
Oui.
Déjà?
Absolument.
La littérature, écrire.
Écrire des romans, des nouvelles, du théâtre. Enfin, Albert Camus, c'est un homme qui a écrit dans tous les styles, qui a écrit pour le théâtre, qui a écrit donc romans, nouvelles, essais, articles de journaux. Il faisait flèche de tout bois et c'était
pour moi...
Mais c'est
ce que vous faites d'ailleurs.
C'est ça. Je suis un peu... j'ai essayé de marcher dans ses traces. Pas juste lui, il y en a d'autres comme ça qui m'ont beaucoup inspiré, mais Camus, c'est vraiment celui qui a donné le déclic initial.
Wow! Ce premier livre-là, La plage des songes, bon, ça a été réédité par le nouvel éditeur, la maison...
Mains libres.
Voilà, les mains libres.
À l'origine, ça a apparu chez Sidika, qui est une maison d'édition haïtienne de Montréal,
oui.
Où j'ai travaillé.
Oui, parce que je m'apprêtais à vous demander, est-ce que vous avez pu déposer votre manuscrit dans plusieurs maisons d'édition?
À vrai
quelles
dire,
sont les réponses qui sont revenues? Et comment ça s'est passé?
Il y a eu plusieurs manuscrits qui ont circulé, mais celui-là... c'est vraiment, il est né dans la forme qu'il a encore aujourd'hui,
oui.
Plus ou moins, il a été travaillé. Mais je travaillais, je faisais de l'infographie, je faisais de la révision des preuves. En fait, je faisais tous les métiers de l'édition chez Sidika.
Chez Sidika.
Sous la houlette de Franz Voltaire, mon ami et
on
éditeur.
On lui fait un clin d'œil,
ouais. Salut Franz. et à un moment donné, on travaillait, c'était les premiers livres du Sidika, qui publiait essentiellement des livres en sciences politiques, en sciences humaines, pas de la fiction, pas de
et
la littérature.
Et ça existe encore, ces Dicker.
Ben oui.
Ça vit encore.
Hein? Oui, ça vit encore. Et donc, c'est le premier livre de création littéraire qui paraît chez Sidika. Et je dis à Franz, un après-midi, on travaillait sur d'autres choses. J'ai dit, quand est-ce que tu publies mon livre? Franz, il me dit, tu en as un? J'ai dit, j'en ai six, si tu veux. Mais j'étais baveux, j'avais 22 ans à l'époque, et il dit, mais emmène ton manuscrit.
Mais est-ce qu'il savait que c'était en l'écrivait?
Oui, il savait que j'écrivais.
D'accord.
Et donc, il me dit, ben emmène le manuscrit, il va passer au comité de lecture comme n'importe quel autre texte, et puis on verra si on le publie ou pas. Mm-hmm. Donc, j'ai emmené le texte, je sais qu'il y a Émile Olivier, paix à son âme, qui était parmi les lecteurs, Max d'Orsainville, ils ont lu, annoté, recommandé la publication à Franz. Donc là, je me suis mis au travail, il a fallu revoir le texte selon les commentaires qu'on me faisait pour les améliorer, les nouvelles, ces 8 nouvelles qui mettent en scène des Haïtiens en exil, la plupart au Québec. Il y a un personnage qui est plutôt en exil aux États-Unis et qui revient, c'est dans la dernière nouvelle, qui revient en Haïti.
Oui.
Et donc, c'était ma perception peut-être de la diaspora. À une époque, on est en 88, on est après la chute de Duvalier. Donc, c'est l'époque où beaucoup d'Haïtiens du Québec pensaient retourner faire leur vie là-bas. C'est les illusions perdues et je dis ça à une époque maintenant où on vit encore un drame terrible en Haïti avec couvre-feu, situation d'urgence, espèce de guerre civile qui se déroule présentement.
Le chef de l'État qui ne peut pas retourner.
Et voilà. Donc,
le premier ministre, disons.
C'est ça. Donc, c'est comme ça qu'est née La Plage des songes qui a été publiée en 88 initialement, qui a été repris dans Bibliothèque québécoise en 98. Cette édition-là était épuisée et donc j'avais récupéré les droits. Wow. Puis je l'ai proposé justement pour souligner le 35 ans, mes 35 ans d'écriture. Donc je l'ai proposé à Main Libre avec qui j'avais déjà fait Crépusculaire et avec qui je m'apprêtais à faire deux autres livres. J'ai dit, on pourrait, si vous le voulez, souligner comme ça. 35 ans, pour moi, c'est évidemment, c'est un chiffre, ça veut rien dire, mais ça veut aussi dire, pour moi, la littérature, c'est l'art de la durée. Les livres sont pas là pour disparaître.
Ah non.
Et ni les écrivains, je veux dire.
C'est ce qui a d'ailleurs provoqué la création des bibliothèques pour que les livres aient leur chambre à coucher.
Voilà.
Si on peut le dire comme ça.
Exactement. Voilà. Alors, c'est comme ça que je l'ai proposé à Stéphane, puis ils ont accepté. Donc, on faisait ça. En même temps qu'on sortait Carte postale d'Outre-Monde, qui est mon plus récent recueil de nouvelles, on revenait sur le premier qu'on a à peine retouché, une virgule ou deux, un mot de trop ou deux, mais l'idée, c'était d'avoir un peu de respect pour le garçon de 22 ans qui avait publié ce livre-là, 35 ans plus tôt.
Ce premier livre. Merci. On dit merci à Stéphane d'avoir réédité. Hein.
Ben, moi, je lui ai dit amplement merci, mais je peux le répéter encore. Ouais. Parce que vraiment, je suis j'ai un très beau rapport de travail avec, avec l'équipe de Main Libre, Stéphane et Corinne, qui sont les deux têtes de cette maison.
De cette maison, les Main Libre. Ouais. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu découvrir ce premier livre d'État des années 88 de Stéphane, La Plage des songes, c'est publié initialement en 88, oui, bien sûr. La Plage des songes révèle les fondations d'un univers sur lesquels Stanley a su construire une œuvre solide. S'il a évidemment évolué au fil des 35 ans d'écriture, bon, ben voilà, soulignons qu'il écrivait déjà magnifiquement. Les protagonistes de ce recueil de nouvelles sont tour à tour happés par leurs souvenirs idéalisés ou cauchemardesques de cet Haïti qu'ils traînent dans leur exil, telle une carapace de tortue, ça j'adore, oscillant entre tendresse et humour noir, entre compassion et terreur. La Plage des songes retrace les itinéraires singuliers de ces personnages livrés aux caprices de forces naturelles et nous fait découvrir un autre visage du Québec contemporain, un livre fondateur pour l'écrivain aujourd'hui célébré. Bravo.
Merci.
Et je dis merci à Stéphane de m'avoir fait découvrir ce tout premier. 88!
1988.
Alors, quand ça s'est fini avec Sidika, Stanley s'est dit, je ne m'arrête pas.
Non, c'est j'en ai fait deux, à vrai dire, avec Sidika.
Avec Sidika,
il y a un autre livre qui est paru chez Sidika qui s'appelait Sombres Allées.
Oui, oui.
Donc, début des années 90.
C'est ça.
Et puis, bon, par la suite, j'y suis revenu à Sidika pour un projet particulier en 2015, qui est un livre coédité par Sidika et Clowns sans frontières, Un soleil en plein visage.
Oui.
J'étais retourné, c'était la première fois que j'y retournais depuis 15 ans, quand je suis allé en Haïti en 2015. 2014, dans le cadre d'une mission de Clowns sans frontières, qui est cet organisme artistique. Oui.
Je te coupe la parole, c'est pour juste mettre un peu quelque chose au clair. Pour ceux qui ne connaissent pas son lieu de naissance et sa ville d'adoption, il est né en Haïti, mais ses parents sont arrivés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il était encore bébé. C'est là qu'il a grandi, donc c'est sa région d'adoption.
Son pays,
c'est là qu'il a tout fait, qu'il a tout commencé. Et voilà, c'était pour dire, se mettre au clair, quoi, pour ceux qui ne le savent pas.
Oui. Et
donc
c'est vrai.
Donc, c'est un Saguenay.
Haïtiano-Saguenay.
Haïtiano.
Donc, tant qu'on est à la maison, les trucs se passent en créole, c'est du racpois, c'est griot, banane pesée.
C'est ça.
Et on sort de la maison, et puis bon, on est au Saguenay.
Haïtiano.
Donc, Tarte au bleuet.
Oui, je te laisse aller. C'était pour
vous. Oui, je disais qu'avec Sidika, le dernier livre que j'ai fait avec eux, c'était en 2015, quand j'ai publié mon récit de voyage en Haïti, en deux versions, donc en version en français et en anglais, accompagné des photos de Catel Le Fustec, qui est la patronne de Clowns sans frontières au Canada. Et donc, il y a une troupe de forains, donc de clowns, acrobates, artistes de cirque, qui sont encadrés par Clowns sans frontières. Et donc, c'était une tournée de ces jeunes des milieux modestes de Port-au-Prince, qui allaient donc présenter leur travail dans différentes écoles communales. C'était précédé à chaque fois d'un atelier d'écriture et d'une conférence par mois. Donc, on parle de littérature, on parle de création, et ensuite, on assiste au spectacle de cirque.
Ouais, Sidika, ouais, ça existe encore, ça vit encore.
Mais absolument.
Alors, nous, on va aller autrement. Et 13 pas vers l'inconnu.
13 pas vers l'inconnu, c'est un autre recueil de nouvelles qui, lui, a paru chez Pierre Tisser. Monsieur Tisser n'était déjà plus de ce monde, je crois. En tout cas, Robert Soulière était le directeur à l'époque.
Mm-hmm.
Et donc, c'est un recueil de nouvelles pour jeunes. C'est une époque, on est au milieu des années 90,
oui,
où j'ai publié pendant 5 ou 6 ans beaucoup de livres qui s'adressaient aux adolescents.
1996.
Ouais. Donc, des romans qui s'adressaient aux adolescents chez La Courte Échelle. Et puis, Tisser qui me dit, bon, puisque je sais que tu vas donner tes romans à La Courte Échelle, est-ce que tu nous donnerais des nouvelles? Donc, j'ai ramassé 13 nouvelles étranges qui ont paru donc chez Pierre Tisser en 96, la même année que le roman Zombie Blues.
Oui, quand j'ai vu la liste des livres de jeunesse, je me suis dit, il n'a rien laissé, il n'a rien oublié. Nouvelles, jeunesse, collaboration, et puis les autres, il y en a plein.
Mais... Oui.
Stanley, quand on a 35 ans de carrière littéraire, d'écriture, d'odeur du papier, d'échange de courriels, de communication téléphonique avec les maisons d'édition, comment on se sent? C'est presque un demi-siècle.
Oui, ben 35 ans. C'est le métier que je voulais faire, je l'ai dit, depuis l'adolescence. Et tiens, je vais prendre un exemple qui, à mon avis, s'adresse également aux écrivains. C'est quand Oliver Jones a voulu se retirer, la première fois qu'il a voulu prendre sa retraite du jazz, son grand ami Oscar Peterson lui a dit « Mais qu'est-ce que tu racontes que tu prends ta retraite? Un jazzman, ça ne prend pas de retraite. Un jazzman, ça meurt. »
Non, c'est pareil pour un écrivain.
C'est pareil pour un écrivain. Donc alors, 35 ans, bien sûr, 35 ans avec l'idée de continuer. Il y a plein de projets sur la table. Juste pour ces 35 ans-là, 4 livres sont parus, incluant la réédition de La Plage des songes. Donc, je voulais marquer le coup et dire que c'est pas terminé.
C'est un livre encore jeune, hein?
58 ans bientôt.
Ah, oh là, il n'a même pas la soixantaine. Oh là là, on fait une petite pause musicale et puis on revient. 58 ans, ouais, c'est pas vieux, ça. C'est jeune. Ouais.
Zoom, 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 z la po wenu hlala khona akekho ngakususa khona inhlizweni yami yebo julele we kisiyo yami la po wenu hlala khona akekho ngakususa khona inhlizweni yami ah wa ngifuna ukupata kahle ngifisa ukwenzela konke ngoba phela wenu yikho konke uyimpilo yami
Là, on était en Afrique du Sud comme ça avec Tilegasi, avec la complicité de Ngobi Yao, Lalanami. Vous avez entendu ces voix là. Ça c'est bien Zoulou, ça, voilà, c'est ça vient du pays de Mandela comme ça. Alors Stanley, bon, je reviens à ce premier livre là. Moi je le connaissais pas. Je dis merci à Stéphane de me l'avoir découvert. Votre papa, quand il vous a présenté comme écrivain à l'hôpital.
Oui, j'ai raconté ça dans la préface de la nouvelle édition de La Plage des Songes, parce que ce livre, mon père ne l'a jamais vu.
Oui.
Il faut peut-être replacer le contexte. Mon père était professeur de lettres. Mon père était un passionné de littérature.
Et il venait de prendre sa retraite.
Et il venait de prendre sa retraite quand le cancer l'a fauché soudainement.
Oui.
Bon, sans doute qu'il en souffrait depuis un moment sans le savoir, mais au moment où il se fait opérer, son médecin est convaincu qu'il a des pierres sur les reins, alors que c'est un cancer du pancréas. Il a duré à peine 2 semaines et demie de plus après l'opération. Mais c'est un moment pour moi parce que je savais ce que ça représentait pour lui. Puis bon, il lisait mes textes en même temps, il était très... Je dirais pas sévère, mais il avait une certaine conception de la littérature qui n'était pas forcément la mienne. Très classique. Mon père, c'est la littérature classique française.
Il était enseignant.
Et le réalisme psychologique du roman français du début du siècle. Donc, moi qui fricote avec le fantastique, la science-fiction, ça l'intéressait. C'est pas que ça l'intéressait pas, mais il trouvait que j'écrivais bien, m'avait-il dit, mais il avait hâte que je me prenne, que je me collette à des vrais sujets. Et donc quand même
pour lui les sujets que son fils dont son fils faisait allusion c'était pas des vrais
non,
sujets.
Non, puisque ça bascule dans le fantastique donc c'est pas sérieux. Mais quand même sur son lit d'hôpital alors qu'un collègue vient lui rendre visite et il me présente comme son fils écrivain, j'étudie en lettres à ce moment-là, je suis de passage parce qu'il est malade, je suis de passage à Jonquière.
Stanley est venu de Jonquière pour vous le voir.
Je suis venu de Québec. Ça puis en repensant à ça, au moment où parce que La Plage des Songes va paraître un an après sa mort, et le livre lui est dédié, parce que quand même, si j'ai pu grandir dans une maison à ce point habitée par la littérature, c'était lui, c'était ses livres dont j'ai hérité, qui était cette bibliothèque plus fournie et plus intéressante, sans doute, que la bibliothèque municipale de Jonquière à l'époque, où il y avait beaucoup de choses frivoles. Il y avait très peu de choses frivoles dans la bibliothèque de mon père et je lui en suis gré d'avoir pu bénéficier de ça et de sa culture. C'est quand je repense à mon rapport avec lui et je le compare, comparaison n'est pas raison, je le sais, mais mes amis qui disent « Ah, les souvenirs d'aller à la chasse ou à la pêche avec mon père », ben moi, les plus beaux souvenirs que j'ai avec lui, c'est d'être assis devant apostrophe. Donc, de regarder l'émission de Bernard Pivot avec les écrivains qui défilent et Pivot qui anime ces discussions très animées. Et aussi, les discussions sont animées de notre côté aussi parce qu'on n'aime pas les mêmes écrivains, on n'aime pas la même esthétique. Je me rappelle mon père qui est scandalisé par René Lepès, par exemple, pour ses nouvelles érotiques. Pivot qui lui pose des questions là-dessus.
Notre père nous a fait découvrir cette émission aussi, d'ailleurs, très branchée, littérature française.
Oui, tout à fait.
Donc, Pivot, cette émission, c'était l'émission,
le rendez-vous dominical que nous ne manquions jamais, que nous écoutions ensemble. Je me rappelle, il y avait Alberto Moravia qui était là, un écrivain italien qui avait écrit « Lui et moi », un pavé de 600 pages d'un type qui s'engueule avec son pénis. Et mon père me dit « Mais c'est un scandale !» <mon père. rire> Moi, je suis allé le lire parce que je trouvais le sujet intéressant.
Ah ouais. Je comprends, c'est une autre génération.
Oui, voilà.
Alors, diversifier jeunesse, roman, nouvelle, collaboration. Alors, À quoi il n'a pas touché. Ce que je voulais dire, quand je vois toute cette liste de livres, est-ce que Stanley peut dire, voilà mes préférés?
J'ai des livres que je ne dirais pas que je regrette d'avoir publiés, mais j'ai des livres qui me sont... qui me semble moins intéressant avec le recul, alors qu'il y en a d'autres que je suis assez content, même si je ne suis jamais totalement satisfait d'un livre.
C'est-à-dire que Stanley se dit que j'aurais pu écrire autrement.
J'aurais pu faire mieux.
Ah.
Je pense, par exemple, que Sombres Allées, le deuxième recueil de nouvelles chez Syndicat, en le relisant, je le trouve moins abouti que La Plage des Songes, alors qu'il avait suivi.
Oui.
Il y a des romans, parmi les 5 romans que j'ai faits pour la jeunesse à la courte échelle, il y en a un que je trouve assez peu intéressant, mais avec le recul. C'est Quand la bête est humaine. Donc, c'est ça. Une fois que le livre est offert au public, là, il est trop tard, on peut pas...
Il ne vous appartient plus.
D'abord, il ne m'appartient plus, puis il existe, il m'échappe d'une certaine manière.
C'est ça.
Mais des fois, je vais accepter qu'il m'échappe dans l'état où il est. Puis c'est pourquoi La Plage des Songes, quand on l'a réédité, comme je dis, on a touché à 2 ou 3 virgules. Mais pour moi, il fallait pas retoucher le texte.
Il fallait qu'il reste original.
Il fallait qu'il reste le plus proche possible de la version originale pour respect pour le manuscrit d'antan.
Wow. Là, tout de suite, voilà ce que j'adore aussi. Hein. Parlez-moi du lien avec lui d'abord.
Michel Donato,
bleu sur le vif.
Contrebassiste.
Qu'est-ce qui vous lie?
Ah ben,
la rencontre s'est faite?
Ben, Michel Donato, bon, évidemment, par mon autre métier, la radio et le jazz.
On en parlera plus tard.
Je connais Donato, puis j'étais un amateur de jazz avant même d'animer des émissions
avant
à Radio-Canada.
Avant de commencer, voilà,
c'est ça. Et j'ai vu Donato à quelques reprises, notamment à l'époque où il avait ce duo avec la chanteuse Karen Young. Superbe groupe, une voix, une contrebasse, et la musique était pleine. Donc, je le vois évoluer. Il fait partie de notre paysage musical au Québec et au Canada depuis fort longtemps.
Oui.
Il a travaillé avec, j'aime dire mon cousin, mais ce n'est pas vraiment mon cousin. C'est le cousin de mon cousin, Éval Maniga.
C'est un cousin lointain.
Oui, Éval Maniga, qui est ce qu'on appelait le pape des musiques du monde à Montréal, un musicien d'origine haïtienne, du Cap-Haïtien aussi. Éval a travaillé avec Donato. Donc, je connais Donato comme ça et à 2 reprises, il me demande d'écrire la préface d'album à lui. Donc, ce qu'on appelle en anglais les liner notes.
Ouais.
J'ai fait les présentations de 2 albums de Michel. J'ai écrit quand il a reçu le prix Opus pour l'ensemble de sa carrière. On m'a demandé d'écrire l'hommage à Donato. Donc, on se connaît, puis il sait que je m'intéresse à lui. Puis, à un moment donné, il se met à me harceler à partir de 2017 en me disant, écoute, j'aimerais ça que tu écrives ma biographie. Puis moi, je me disais, oh, c'est à ce moment, 60 ans de carrière, ça va être un travail énorme. Je n'avais jamais écrit de biographie avant ça. C'est ma première. Et il a tenu bon. Il a continué à chaque fois qu'il me voyait. Quand est-ce que tu fais? Il revient sur ça.
Oui.
Et bon, c'est quelqu'un que j'ai rencontré aussi. Je l'invite à l'émission à quelques reprises. Et un midi comme ça, fin 2018, il m'invite à manger dans un resto de sushi dans Côte-des-Neiges. Et il revient à la charge. Puis je cède. Après un an, je dis « OK, d'accord, on va le faire, mais ça va être long. »
Il était déterminé,
oui. Mais je lui dis « Ça va être long, Michel. Ce ne sera pas simple de raconter ta vie parce que 60, finalement, maintenant, ça fait 65 ans qu'il est dans le milieu. Il a commencé très jeune. Il a 81 ans, Michel. Il a commencé à 16 ans aux côtés de son père. Et donc, on commence. Au début, les premiers mois de travail, il venait manger à la maison tous les mardis midi. Je lui servais à manger et je lançais l'enregistreuse et nous discutions de sa carrière. Au bout d'un moment, voyant les lacunes de sa mémoire, c'est pas quelqu'un qui a une très, très grande mémoire, tout est un peu imprécis, j'ai dit « Écoute, Michel, on pourra pas procéder de cette manière-là.
»
Et donc, au bout de 3 ou 4 mois, s'ajoute tous les mardis un invité de plus, quelqu'un qui a travaillé avec lui à n'importe quel moment de sa carrière, qui va venir nous raconter son Michel Donato, ses moments avec lui. Et donc, la discussion avec l'invité de plus, finalement, stimule la mémoire de Michel. J'ai tous ces enregistrements-là qui s'accumulent. Et puis, on est parti, après un an et quelques, on est parti passer une semaine à Toronto pour rencontrer, parce qu'il a vécu à Toronto pendant presque 10 ans, pour rencontrer les musiciens qui faisaient, qui, les survivants en tout cas, qui faisaient encore partie de sa vie, de sa carrière. Et donc, ça a pris presque 6 ans à écrire ce livre. Et,
Michel,
après avoir fait de la pression pour que je m'engage, c'était même quand est-ce qu'il sort? Il dit, moi, j'aimerais bien qu'il sorte pendant que j'ai les yeux ouverts. Parce que se sachant plus de toute première fraîcheur, cela dit, il a enseigné jusqu'à tout récemment. Il continue à jouer. Et le week-end dernier, il jouait Kind of Blue avec Randy Loro. Donc, il est encore actif.
Il est encore actif.
Et au fil du travail, on est devenu d'assez bons copains. Quand on est allé à Toronto, à l'époque, c'était une ville... j'y étais allé à plusieurs reprises. C'était pas une ville qui me charmait, mais le fait d'y être avec Michel puis de rencontrer tous ces musiciens qui avaient travaillé avec lui dans les années 70, ça m'a réconcilié avec la ville reine.
On va revenir sur ça. Mais pour ceux qui ne... C'est pas une brique, c'est une mini brique. C'est 445 pages.
Oui.
Ça se lit bien. C'est un bon musicien de jazz, c'est quelqu'un qui est en mesure de faire presque n'importe quoi,
ouais,
comme dit son ami Stanley. Il n'est pas censé s'imposer de frontières à la base. Bon, ouais. Ils sont habitués à une certaine liberté contrôlée.
C'est ça l'idéal du musicien de jazz.
C'est
et en plus,
ça.
Michel a œuvré en dehors du jazz beaucoup. Et je prends la peine de le souligner dans ce livre-là. Parce que d'un côté, il a joué avec deux des plus grands pianistes de l'histoire du jazz moderne.
C'est
Oscar
ça.
Peterson, il a été son contrebassiste pendant 2 ans, a tourné en Asie et un peu partout à travers le monde. Et Bill Evans, avec qui il a joué ici à Montréal, au centre-ville de Montréal, et qui voulait partir en tournée avec Michel. Et Michel, à ce moment-là, fait le choix de la famille. Il préférait rester avec ses enfants et avec sa conjointe à Montréal. Et donc, mais en dehors de ça, il a accompagné Edith Butler, Félix Leclerc, Charles Aznavour. Nommez-les!
C'est un de mes contrebassistes préférés.
Ouais.
Quand j'ai vu le roman, j'ai dit « Waouh! Michel Donato! » Restez à l'écoute. La petite pause publicitaire et puis on vous revient dans... une trentaine de secondes, bien sûr, rapidement, avec mon invité, Stanley Pierre.
Vous écoutez Afrique Caraïbes avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie de l'émission, toujours avec mon invité Stanley Perrin. On est en train de parler de son ami Michel Donato. Ça, c'est tout neuf. Ça sent encore le bois. Mais c'est tout
c'est l'odeur de la contrebasse.
Voilà. Stanley Perrin, Michel Donato, bleu sur le vif. Très belle photo.
C'est une extraordinaire photo, effectivement, qu'on avait vue dans une exposition au Festival de jazz. Et quand j'ai montré la photo à mes éditeurs, à Stéphane Despatie et Corinne, Chevalier, on a dit, ah bon, il faut... Je les ai mis en contact avec le photographe que je connais bien.
Pour
cette photo-là, elle est extraordinaire. Donc, lui était très content. Il a même apparemment baissé ses tarifs parce qu'il y a quand même des règles sur l'utilisation d'une photo comme ça en couverture. Mm-hmm. Mais lui-même était très, très, très content qu'on puisse utiliser sa photo.
Alors, pour ceux qui n'ont pas encore leur copie, c'est aux éditions Mes Livres. Allez-y, chez votre libraire d'à côté, là, pour chercher votre copie. Hein. C'est pas une brique. Il y a de très belles photos là-dedans. Quand moi, je parcourais, je dis... Waouh, merci à Stanley de nous faire découvrir le parcours de Michel. Ouais. Sincèrement.
Et c'est vraiment un parcours exceptionnel. Mm-hmm. Il y a des anecdotes là-dedans, des fois les gens les connaissent, mais Michel a failli travailler avec Miles Davis. Miles Davis appelle Michel. Mm-hmm. Miles Davis a passé une semaine, on est au milieu des années 60, une semaine à jouer au centre-ville de Montréal.
Ah ouais?
Et en alternance avec le groupe Maison du Jazz Hot, qui était dans la zone qu'on appelle maintenant la... le quartier des spectacles. Le Jazz Hot n'existe plus depuis longtemps, mais en tout cas, Miles Davis joue, il y a le trio de Pierre Leduc avec Donato à la contrebasse. Et à la fin de la semaine, il est allé serrer la main à Michel, mais le lendemain matin, il appelle Michel, il a eu son numéro, on ne sait trop comment, et il lui dit, et vous savez, Miles avait cette voix particulière à cause d'une opération aux cordes vocales. Il parlait comme ça un peu. Alors, il appelle, il dit, « Hello, Michel, it's Miles Davis. » Puis Michel, pensant que c'est un copain qui imite la voix invraisemblable de Miles, dit « Wow, oui, sûrement », puis il raccroche. Et là, Miles rappelle « This is really Miles Davis ». Et Miles Davis, donc, voulait l'engager pour une tournée au Japon. C'était presque dans la poche, mais le Japon, où il était allé précédemment avec son jeune batteur, Tony Williams, a dit « Tony Williams, la dernière fois qu'il est venu, on l'a arrêté avec possession de hashish ». il est interdit de séjour au Japon. Wow. Et Miles a dit, je ne vais pas au Japon sans Tony Williams. Et donc, la tournée, comme ça, elle est tombée à l'eau.
C'est avorté,
et,
oui.
Et c'est la seule... Enfin, c'est le seul regret de Michel quand il pense à sa carrière. Il dit, si j'avais eu cette tournée avec Miles Davis, qu'est-ce que aurait été ma carrière?
Mais il a une belle carrière quand même. Il a,
c'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit.
Sans la tournée avec Miles.
Oui, oui, parce qu'il y a eu Oscar Peterson, il y a eu tous ces gens.
Tous ces grands-là.
Dizzy Gillespie et compagnie, ils ont tous joué avec Michel. Ouais. Et d'ailleurs, c'était le running gag... Quand on travaillait sur le livre, j'ai dit comme ça, tu as joué avec Dizzy Gillespie. Et le Michel, toujours, qui me répondait, non, Dizzy Gillespie a joué avec moi.
Et il me sort de ces noms-là. J'ai commencé à écouter des vieux tubes comme ça, des Dizzy Gillespie et autres à l'époque, parce que ça traînait chez nous à la maison, notre père.
Voilà, mais tous ces
musiciens. Le jazz, il nous a mis dans ces choses. Et puis je me dis, voilà. OK. Avant de passer à la carrière radiophonique, journalistique. On va parler un peu de... Au fait, Stanley, si on demandait à Stanley de faire le choix entre seulement écrit et seulement fait de la radio, qu'est-ce qu'il va choisir?
L'écriture, c'est ma vraie passion.
Oui.
La radio, j'aime faire la radio, mais c'est un gagne-pain. Parce que l'écriture ne fait pas vivre son homme. Et c'est drôle parce que je reviens à mon père qui me disait, si tu fais ce choix d'être écrivain, il te faut un autre métier.
Oui.
Et moi, à l'époque, je voulais être architecte en me disant, je vais écrire des livres dans mes temps libres. Moi, je serai architecte. Donc, et je suis donc entré en sciences pures et appliquées au collège dans l'espoir d'entrer en architecture.
Oui.
Deux années plus tard à l'université. Mais pendant que j'étais au collège en sciences pures, j'étais surtout préoccupé par l'improvisation, le stand-up comique, le théâtre et mes débuts dans l'écriture. Ce qui fait que, au bout de 2 ans en sciences pures et appliquées, arrivé à l'université, je suis entré en littérature. Donc, je n'ai pas terminé. J'ai renoncé à l'architecture assez vite. Mais finalement, avec le recul, c'est vrai qu'il a fallu un autre métier. Puis, par hasard, ça a été la radio, je dirais.
Oui. D'accord. On va parler des prix et des honneurs que Stanley a reçus. La liste est longue.
Bon, il y en a quelques-uns.
Mais... Quelle modestie.
Non, mais je veux dire...
Ouais, il y en a quelques-uns. 91, déjà, il est récipiendaire du prix littéraire du CRSBP du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour son roman.
C'est les bibliothèques publiques, ça.
Oui. Le tumulte de mon sang.
Premier roman, paru après les 2 recueils de nouvelles chez Sidika. C'est un roman qui a été publié par Québec Amérique à l'origine. Premier roman dans cette esthétique que j'aimais tant. C'est une sorte de croisement entre Edgar Allan Poe et Jacques-Stéphane Alexis, qui reste mon écrivain haïtien préféré. Et donc, c'est un peu... Au fond, je m'inspire d'une nouvelle d'Alexis qui s'appelle « Le sous-lieutenant enchanté ». Je prends quelques éléments de cette nouvelle-là et je les transpose dans une histoire qui ressemble à celle d'Edgar Poe, « La chute de la maison Usher ». Voilà ce jeune poète d'origine haïtienne qui fréquente une journaliste haïtienne de Montréal, qui l'emmène rencontrer son oncle qui l'a presque élevé, donc qui est un peu sa figure paternelle à elle. Mais son oncle, c'est un ancien militaire d'avant Duvalier. Ces militaires qui ont été domestiqués, disons, par François Duvalier. Et il habite en Nouvelle-Angleterre dans un manoir, le type de manoir qu'auraient les personnages d'Edgar Poe. Et donc, c'est cette manière, encore une fois, de jeter un regard sur l'histoire haïtienne, dans ce cas-là, ce qui a précédé la dictature. Parce que ceux qui savent, pendant un an avant l'arrivée de Duvalier au pouvoir, il y a eu 4 gouvernements provisoires.
Oui.
Il y a eu des coups d'État sur coups d'État, guerre entre 2 factions de l'armée haïtienne. Donc, ces militaires-là, il me fascinait, ces personnages-là, qui sont un peu responsables de l'arrivée de Duvalier dans le décor. Donc, je voulais replonger là-dedans quand j'ai écrit ce livre-là, qui a été d'abord ma thèse en création littéraire à l'Université Laval.
98, le récipiendaire du prix littéraire du CRSBP du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour son roman « L'appel des loups. Ça dit que chaque fois qu'il y a un nouveau, il y a un.
Bon,
il y a un prix qui vient avec quoi.
C'est pas tous les romans qui ont gagné des prix.
Non, mais la liste est longue quand même. Hein.
Oui, ben, encore une fois, c'est les bibliothèques publiques.
Les bibliothèques publiques.
Du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont choisi ça comme meilleur roman de l'année. Puis c'était un roman jeunesse. Moi, quand j'avais vu que j'étais en liste, j'ai dit, bon, ils le donneront pas au roman jeunesse parce que c'était en. Souvent, on regarde de haut le roman jeunesse. Mais voilà, L'appel des loups, inspiré d'une chanson.
Il y a des gens qui regardent de haut les romans jeunesse?
Absolument.
Ah bon?
Il y a des gens qui considèrent que ça ne fait pas partie de la littérature. Mais c'est comme ça.
Okay.
Et comme le jury a décidé de primer ce livre-là, à ma grande surprise, j'étais fort heureux. C'est un roman inspiré d'une chanson d'une amie à moi, L'appel des loups, qui avait été enregistrée d'abord par la bande magnétique, qui était un ensemble de jazz vocal a cappella. Et donc, la bande magnétique avait enregistré L'appel des loups de Christian Rabhi. Puis la première fois que j'ai entendu la chanson, j'ai dit, il y a un roman dans ta chanson. Puis c'est un roman fantastico, horreur, science-fiction. Elle disait, voyons donc, c'est une chanson d'amour. Alors, je lui ai prouvé qu'elle ne connaissait pas vraiment le fond de sa chanson. C'était une blague entre les mots.
Ouais, d'accord. Et là, le dernier. Bon, la liste est longue. Je ne vais pas vous, chers auditeurs, auditrices, je ne vais pas tout parcourir. Mais le tout dernier, là, je ne sais pas s'il y a un nouveau qui est venu qui n'est pas sur la liste que moi j'ai. 2022, lauréat du prix Bruce Lanval.
Oui,
décerné par le Festival international de jazz à une personnalité non musicienne ayant contribué aussi de manière exceptionnelle au rayonnement et à la promotion du jazz.
Et voilà, alors là, ce n'est pas l'écrivain qui est récompensé, c'est l'animateur
c'est
de
l'animateur
radio.
C'est l'animateur de radio qui est récompensé.
Oui, ça parce que Bruce Lanval, ça a été un grand producteur de disques. C'est lui qui a ravivé dans les années 90 une maison de disques qui était morte, Blue Note. C'était juste un fond Blue Note. C'était des disques des années 50, 60, 70. Mais ça faisait longtemps que ça se passait plus. Et puis Blue Note a repris de la vigueur sous la direction de Bruce Lanval, qui a donc redynamisé ça. Et donc, ils lui ont donné d'ailleurs à lui d'abord, c'est souvent le cas au Festival international de jazz de Montréal, ils lui ont donné le prix pour sa contribution en disant « Vous qui n'êtes pas musicien, vous avez été super important dans l'histoire du jazz en faisant ce que vous avez fait avec Blue Note ». Et donc, à chaque année, il récompense comme ça quelqu'un qui n'est pas musicien, mais qui a travaillé à la prospérité du jazz.
Oui. Avant d'arriver, il y a pas mal de choses que quand j'ai vu, j'ai dit, mais Stanley, c'est pas seulement l'homme de radio, c'est pas seulement l'écrivain. Porte-parole du mouvement pour les arts et les lettres.
En 2004, j'avais...
2004, je venais d'arriver au Québec.
En 2004, le président de l'Union des écrivains et écrivaines québécois, Bruno...
Là où vous avez eu trois mandats.
J'ai eu trois mandats, mais suivant Bruno. Bruno Roy en a eu cinq, six, j'ai perdu le compte. Bruno a été longtemps le président et l'UNEC faisait partie de cette table de concertation qui s'appelait le Mouvement pour les arts et les lettres. Et il cherchait un porte-parole et Bruno a dit aux autres, aux gens du théâtre, de la musique et compagnie, il dit « Moi, je l'ai dans mes membres, le porte-parole, ce sera Stanley Péan. » Et là, ils m'ont fait passer presque une audition et j'ai été choisi porte-parole pour le mouvement pour les arts et les lettres. Et Bruno avait autre chose en tête, à vrai dire. C'était presque un test qu'il me faisait passer. J'en parle avec émotion parce que Bruno, qui nous a quittés depuis, ça a été un de mes nombreux mentors. Et il me dit au bout de quelques mois, comme j'étais porte-parole du mouvement, il me dit, tu sais, ça se termine mon mandat à l'Union et je pense que j'aimerais que tu me succèdes.
Wow.
Évidemment, c'est pas désigné, il faut encore gagner les élections.
Oui, mais est-ce que Stanley a déjà pensé à ça? Déjà
je n'y avais jamais pensé, puis au début je résistais. Et finalement,
c'est lui qui vous a mis la petite
graine dans
la tête.
Il m'a dit, écoute, il faut que tu te présentes. Je me suis présenté et jusqu'à la dernière minute, je ne pensais pas l'emporter. Tous les sondages autour de moi, quand je posais la question, voyaient quelqu'un d'autre à ma place.
Oui.
Et je comprenais la logique d'élire cette autre personne-là. Mais finalement, les voix sont tombées et donc je suis devenu président de l'UNEC en décembre 2004 pour trois mandats de deux ans. Après ça, je me suis retiré parce que c'est ce qu'on appelle maintenant la clause Bruno Roy. Lui, il a fait sept mandats. Et là, il y avait une clause qui avait été imposée dans la Constitution de l'UNEC disant qu'au bout de trois mandats, il faut céder le pouvoir.
Il faut céder le pouvoir.
Alors, je sais pas si j'appelle ça la clause Bruno pour éviter, pour éviter que quelqu'un s'éternise.
Les abus. Alors, on va parler un peu de radio.
Oui. Radio,
Quand est-ce que Stanley Péan a pris pour la première fois un micro?
J'ai fait de la radio communautaire au Saguenay à la fin de l'adolescence.
Oui.
J'avais des amis qui animaient les émissions, qui m'invitaient à venir, comme tu l'as fait aujourd'hui,
oui.
à venir comme ça parler, que ce soit de la littérature, que ce soit de la musique, enfin mes passions.
Mm-hmm.
Dans les années 90 à Québec, j'ai également été chroniqueur à des émissions qui étaient diffusées donc à la radio communautaire, CKRL.
Oui.
Mm-hmm. Mais j'ai jamais rêvé d'en faire une carrière. Après ça, j'ai animé pendant 3 ans une émission de télévision qui était produite par la librairie Pantoute à Québec.
Oui.
Pendant 3 ans, j'ai animé au pied de la lettre. Mais c'était, c'est la radio communautaire. À ce moment-là, je venais d'avoir ma fille et je passais beaucoup, beaucoup de temps à travailler sur cette émission de télé. Puis je me disais, il faut quand même qu'il y ait plus d'argent qui rentre quand on a un enfant à élever.
Mm-hmm.
Et nous avons proposé,
Là, vous parlez bien de Laura Doyle Péan.
Laura Doyle Péan. Mm-hmm. Et on a proposé l'émission à droite et à gauche pour être reprise par un réseau en bonne et due forme.
Mm-hmm.
Ça n'a pas fonctionné. On a abandonné, mon équipe et moi. Et puis là, j'ai été approché par Radio-Canada pour animer un nouveau magazine littéraire qui s'appelle Bouquinville.
Oui.
Donc, qui va être en...
J'étais surpris quand j'ai vu ça. Je me suis dit, surpris, oui et non. Bon, il écrit déjà, on le sait. Après, c'est des missions de chronique littéraire, des missions littéraires tombent directement en émission musicale, jazz.
Ah, ça, c'est l'histoire de la,
c'est l'histoire
de la radio au Québec, ça, au Canada, devrais-je dire. Donc, de 2001 à 2004,
oui.
si on recule, donc même avant le mouvement Plaisir et les lettres, puis avant l'UNEC, de 2001 à 2004, j'anime Bouquinville, puisque j'ai été sélectionné par le réalisateur qui avait envie de travailler avec moi.
D'accord.
Donc, je ne suis pas passé par les tests d'admission.
Il connaissait votre parcours littéraire.
J'avais déjà été invité à ces émissions qu'il réalisait.
C'est ça.
Et il me propose « Veux-tu animer ?» une émission qui n'a pas encore de titre, mais on l'a trouvé ensemble, Bouquinville, parce que c'était une expression que j'utilisais beaucoup dans mes chroniques.
Ah, bon, d'accord.
Dans mes chroniques à la presse. Et donc, pendant 3 ans, j'anime cette table ronde avec des chroniqueurs, avec des écrivains invités qui viennent présenter soit des thématiques, soit leurs plus récents livres.
Oui.
Qu'est-ce qui arrive en 2004? C'est que la chaîne culturelle pour laquelle je travaille est supprimée. Elle est remplacée par Espace Musique, qui depuis est devenu Ici Musique.
Ici Musique, oui.
Donc, alors on me dit, la direction me dit, écoute, l'émission littéraire avait évidemment quitté l'antenne puisque nous n'aurons plus d'émission de ce type, mais on aimerait bien te garder dans l'équipe d'Espace Musique. Et qu'est-ce que tu as envie d'animer? Je me rappelle avoir dit à la patronne, écoutez, si vous me proposez une émission sur le jazz, je serai le plus heureux des hommes. Si vous me proposez une émission sur la chanson francophone, je serai le plus heureux des hommes. Elle dit, ce sont les deux seuls genres qui t'intéressent. J'ai dit, il y a d'autres genres qui m'intéressent, mais qui ne seront probablement pas diffusés par Espace Musique. J'avais raison, entre autres la musique soul. Il se trouve que maintenant, 20 ans plus tard, j'anime une émission de musique soul à Ici Musique. Mais à l'époque, ça ne faisait pas partie des plans, ni le blues, ni un certain nombre de choses qui m'intéressaient. J'ai dit, écoutez, si vous me demandez d'animer quelque chose sur les concertos de Mendelssohn, je vous dirais non parce que je ne m'y connais pas. Pas parce que ce n'est pas de la belle musique, mais je n'ai pas l'impression que j'aurais un propos intéressant sur la musique classique européenne parce que je me suis jamais passionné pour
ça. C'est ça, c'est ça.
Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à animer des émissions de jazz dès 2004. Et que l'émission actuelle que je fais, qui s'appelle « Quand le jazz est là », est en ondes depuis 2009. Donc, ça fait 15 ans que j'anime celle-là.
Oui, oui. Elle était quotidienne avant.
Elle était du lundi au vendredi à l'heure de l'apéro. Il y a 2 ans, on l'a déplacée en fin de soirée. Et elle est seulement du lundi au jeudi maintenant.
Du lundi au jeudi. Et l'émission sur le blues.
Il y a l'émission sur la soul. C'est tout de suite après. Bon, elle est née l'année dernière. Une proposition qu'on a faite, mon réalisateur et moi. Donc, Soul la nuit, a tout juste un an en onde, un peu plus qu'un an. Puis il y a l'autre qui a 2 ans, qui s'appelle La boîte de jazz, qui est diffusée le dimanche soir, qui est une création de Lou Tremblay, la réalisatrice. Et elle a proposé l'idée qu'il y aurait une émission qui se consacrerait au jazz vocal. Et puis, spontanément, elle m'a dit, veux-tu l'animer? Déjà que j'avais une soirée de moins pendant la semaine, donc je reprenais le dimanche. Cette émission qui est à 1 heure, un peu plus... c'est à 19h.
À 19h, bon, c'est pas... En début de soirée, quoi.
Oui, en début de soirée. Un peu plus proche de l'heure que j'ai occupée pendant longtemps.
Mmh. Est-ce que Stanley est toujours ambassadeur du Festival Jazz Blues de Saguenay?
Toujours.
C'est à vie, ça.
Ben, c'est dangereux quand un Haïtien dit à vie parce qu'on a tout de suite l'image de Duvalier. Mais non. En fait, je leur ai toujours dit jusqu'à ce que vous ne vouliez plus de moi.
Oui.
C'est ce que j'ai dit au festival. À l'époque, il était dirigé par un vieil ami du secondaire, Jacques Dubé,
oui.
qui m'a appelé, qui m'a proposé veux-tu être notre porte-parole. Mais nous, on va dire ambassadeur. On n'aime pas porte-parole.
Oui.
Donc, ambassadeur.
Ambassadeur.
Donc, ça veut dire qu'à chaque printemps, sauf l'année du confinement, je suis là-bas, je diffuse de la station saguenéenne de Radio-Canada.
Mm-hmm.
Je vais présenter sur scène certains des concerts, pas tous, parce qu'il y en a beaucoup sur une toute petite semaine. Et donc, je renoue avec la région de mon enfance et en même temps, j'y suis pour promouvoir cette musique qui me passionne.
Avant de vous demander si le Saguenay vous manque, une petite pause musicale.
Le président élu par le peuple, y a l'un gosse VIP.
Tata, oh, maman, y a l'un gosse VIP. Anapenda sana kuishi na binadamu, lakini kila siku anakugeukia. Usijali hawa ndio binadamu, wakikukwepa kuna siku atakutafuta. Wakikusengenya nyamaza watajifunza. Wakikusalau ipo siku watakusifia. Ni kawaida ya
kawaida ya
tinda mema nende zako usingu uche shukrani. Yango ni maye ningana kapamba te soki ningani sekeli kamwezali. Una binadamu wabaya
wabaya wabaya.
Dunia wabaya,
wabaya, wabaya.
Uishi na binadamu ni kazi
wabaya, wabaya.
Abu pengelanga ya lengo sifi ya ipi papa na gaisa fariala na Jennifer fariala.
Akika jomali chisekedi Moise mozaliwa
seke babu akilipanga ndema.
On écoute la voix de Christian Bella qui est congolais de la République démocratique du Congo, mais qui fait carrière en Tanzanie. Ah ouais, il fait carrière en Tanzanie, ça c'est tout nouveau ça, il a mis ça sur les réseaux sociaux là, la semaine passée. Binadamu Lengos, ouais, Christian Bella, il ne fait pas carrière au Congo mais en Tanzanie. Et ça se passe très bien pour lui là-bas.
De toute façon, les frontières n'existent plus.
Les frontières.
En tout cas, en musique.
En musique, oui, ça c'est clair. Ils font tellement de duos entre eux, les artistes. Alors, Stanley, avant la petite pause musicale, je te demandais, est-ce que le Saguenay manque à Stanley? Est-ce que le Saguenay te manque?
Je ne peux pas dire que le Saguenay me manque et j'espère que je n'insulte aucun Saguenayen. Je veux dire, j'avais envie de partir. Quand je suis parti étudier, puis je me suis retrouvé à Montréal, dans la grande ville, parce
oui.
que ça faisait partie de mes ambitions. Je serais même allé plus loin après, mais après ça, j'ai eu des enfants, puis je suis resté plus proche d'eux, d'elle et eux. Cela étant dit, c'est toujours un plaisir de retourner au Saguenay, mais je veux dire, je n'en rêve pas la nuit. Ça fait partie de ma vie. C'est un chapitre qui est terminé, et j'aime bien faire ce qu'on appellerait une petite saucette, comme on dit au Saguenay, mais... Je ne retournerai pas y vivre.
À une saucette. Faire un saut.
Oui.
Ah bon?
Une saucette comme dans se tremper le pied, là.
Il y a eu le contact qu'il a gardé avec quelques amis d'enfance là-bas?
Oui, j'ai encore pas mal d'amis
oui.
Là-bas. Et quand j'y suis une fois par année pour... ça fait un moment que je suis pas allé au Salon du Livre du Saguenay, mais quand j'y suis une fois par année pour le Festival Jazz et Blues, c'est l'occasion... d'aller prendre un verre, d'aller voir un spectacle. Il y a des gens qui m'attendent, qui me disent « qu'est-ce qu'on doit absolument voir ?» Donc là, on a eu tellement des belles visites au Festival Jazz et Blues du Saguenay. Mm-hmm. Entre autres, j'avais cet ami musicien qui m'était très cher, Wallace Roney, je suis obligé de parler à l'imparfait. Wallace Roney, trompettiste qui a été le protégé de Miles Davis, en fait l'héritier de Miles, à qui Miles a légué toutes ses trompettes à sa mort. J'ai convaincu les gens du Saguenay, j'ai dit « il faut que Wallace vienne jouer ici, il faut que les gens du Saguenay puissent voir de visu ce musicien immense qui était Wallace Roney, qui est venu l'année avant sa mort, en 2018, il est venu jouer à Saguenay. Mais autrement, il y a eu Ravi Coltrane, le fils de John Coltrane, a joué à Saguenay. Il y a eu, en fait, des grosses pointures. Je me rappelle d'une soirée fort arrosée.
Tous ces noms que tu es en train de citer, là, Dizzy, Coltrane et autres, là, ça fait partie du répertoire de mon père.
Ben oui, c'est des monstres sacrés, ces gens-là.
C'était des monstres sacrés, ces gens-là. Absolument. Ils ont révolutionné. J'ai eu la chance de voir Miles en Allemagne, une fois sur scène.
Ouais. J'ai vu à Montréal, moi.
Ouais, c'était fou. Ouais.
Et je dois avouer qu'après avoir vu Miles, c'est ce qui a cristallisé. J'aimais déjà le jazz comme ça, mais pas de manière à vouloir me spécialiser. Mm-hmm. Voir Miles au Théâtre Saint-Denis en 1985 avec ma sœur, un spectacle qui n'était pas annoncé au programme et qui s'est ajouté après que le festival a fini.
Ah bon?
Et on est avant Internet. Hein. Alors, le programme a été imprimé, puis Miles appelle André Ménard et lui dit « Je veux venir ». Mais c'est trop tard pour être dans le programme, mais on sait bien que ça allait être plein. Parce que
il faut faire la promo quand même.
La promo, voilà. Il suffit de dire que Miles Davis va être là. Puis
les gens vont se déplacer. Ouais.
Le spectacle, c'était extraordinaire.
Wow.
Miles Davis, à
les absents ont eu tort.
Ils ont eu tort, mais c'est surtout que lui, il pouvait se permettre de dire à la dernière minute, oui, je viens à Montréal dans trois semaines. Puis on va dire, OK, d'accord, on va te trouver une place. Mais c'était une place en fin de soirée, le vendredi à 23h, dans un théâtre Saint-Denis bondé. Et c'est l'époque où Miles joue « Time After Time » de Cyndi Lauper et « Human Nature » de Michael Jackson. Enfin, je nomme les interprètes plutôt que les compositeurs. Mais c'est le Miles flamboyant des années 80 avec ses perruques un peu artificielles. Bon, quand même.
Avant de revenir sur le jazz, un petit clin d'œil à Laura.
Laura.
Oui, fille.
Ma fille.
Poétesse, activiste. Est-ce que Stanley est content que sa fille prenne la plume, qu'il s'exprime à travers?
C'est drôle parce que je vais répondre en élargissant un peu. Philippe, son frère cadet, veut devenir scénariste. Donc, il étudie en scénarisation pour le cinéma et la télévision. Mm. Donc, il semble que les deux pommes ne soient pas tombées trop loin de l'arbre. Laura, c'est un personnage fascinant. Mm. Elle avait, et là je dis « elle », mais elle est non-binaire, elle préférerait que je dise « elle », mais je n'ai pas cette habitude-là. Laura, à 14 ans, se sentait coupable de ses privilèges. Elle disait « oui, mais bon, ma mère enseigne, mon père est écrivain, animateur de radio, j'ai grandi dans la Watt, alors qu'il y a des gens qui meurent à travers le monde, il y a des gens qui n'ont pas à manger, il y a des gens qui sont opprimés. Et ça lui faisait vraiment...
Elle
en souffrait.
Elle avait quel âge?
Elle avait 14 ans. Wow. Et je lui ai dit à ce moment-là, j'ai dit, Laura, tu sais, au lieu de te sentir coupable, s'il y a quelque chose qui te semble injuste dans le monde dans lequel on vit, travaille à le changer. Et c'est là qu'elle a commencé ses croisades multiples qui passent évidemment par la poésie, qui passent par l'écriture, mais qui passent aussi par un réel engagement social.
C'est ça.
Elle organise des marches, elle est sur toutes les tribunes et il y a de quoi être fier. Enfin, sa mère et moi sommes très, très fiers.
Je tenais à te poser la question ici. Alors, on est encore deux minutes rapidement. Avant de laisser finir l'émission, là, à la fin de l'émission, c'est une heure de... Moi, j'appelle pas ça une entrevue, une heure d'échange.
Oui.
Avec Stanley Payan, sa carrière littéraire et sa carrière radiophonique. Cet amour pour le jazz, ça vient d'où? Rapidement, quelques secondes.
Ma mère. Enfin, ma mère avait cette discothèque extrêmement éclectique qui allait de la musique classique européenne jusqu'à la musique de danse haïtienne, les musiques du monde, le blues, le rock, le jazz. Il y avait du jazz chez moi.
Papa, c'était la littérature.
Et maman, c'était la musique. Maman jouait de la musique. Maman était pianiste. Et donc, je me suis rendu compte très vite que ce qui me charmait le plus, c'était le son des cuivres, notamment la trompette. Tout ce que j'aimais quand j'étais plus jeune avait de la trompette. Il y a eu un moment avant que je réalise ça. Mm-hmm. Même les chansons d'Aznavour ou de Beko que je préférais, c'est celles où il y avait des cuivres. Donc, c'est ce qui m'a fait basculer vers le jazz.
Merci beaucoup, Stanley Payan.
Ça a été un plaisir, Fulgence.
Un très grand plaisir d'avoir pris le temps de venir nous parler un peu de ton parcours littéraire et ton parcours radiophonique. Merci à toi, Pearson. Merci à Catherine Bouduron qui a organisé tout ça. Ouais. Au plaisir.
On se reverra
pour les 35 prochaines.
On n'attendra pas 35 ans. Voilà.
Non, c'est pas nous revoir. Pour les 35 prochaines années d'écriture. Mais je vais vous recevoir. On va se revoir avant ça.
J'espère
ça,
bien.
Ça, c'est clair. Ouais. Merci, Stanley.
Plaisir.
Yes, my friend, my friend, my friend. On the band street again. Again, again, again. Yes, my friend, my friend, my friend. Them set me free again. Again, again. There was.